Alignée, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Alignée, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leur client idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va super et toi ?
Ouais, super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Je t'en prie, c'est avec grand plaisir.
Bah Morgane, je suis ravie de t'accueillir pour que tu nous parles de ton parcours et puis des coulisses de ton activité. Morgane, tu es graphiste et rédactrice indépendante et tu es aussi à l'origine des briefs créatifs. Les briefs créatifs, c'est un projet qui permet de challenger la créativité d'autres créatifs. C'est à la fois un jeu de cartes, un compte Insta et un site web, mais tu vas nous en dire plus. C'est un projet que j'aime beaucoup. C'est grâce à ça que je t'ai connue, donc on va en parler. Mais on va pas parler que de ça, évidemment. Je vais te laisser te présenter, en fait, avec tes mots à toi. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais et puis ce qui t'anime dans la vie?
Eh ben déjà, merci Dorothée pour l'invitation et puis merci pour tes mots. Je suis très touchée que tu apprécies le projet des briefs créatifs. Du coup, je suis Morgane, j'ai 25 ans et j'habite à Lyon. Je suis en dernière année d'études en direction artistique et je suis en alternance chez Anatae, donc c'est une marque de matcha et de thé japonais. Et à côté de ça, je suis graphiste indépendante depuis plus de 3 ans maintenant, et aussi fondatrice des briefs créatifs, comme tu l'as dit, qui a d'abord été un compte Instagram, qui est devenu un jeu de cartes depuis la fin d'année dernière, et du coup qui se destine aux créatifs, et plus particulièrement aux graphistes. Donc du coup j'ai plusieurs activités différentes. Dans le jargon, on a un mot pour ça, c'est slasheuse. Je l'aime pas vraiment ce mot.
Pourquoi ?
Je le trouve pas très beau, en fait. Juste, c'est juste l'esthétique, en fait, du mot, mais on va dire que j'aime bien ce qui dégage et ce qu'il veut dire. Mais juste au-delà de ça, je suis pas vraiment fan du mot en tant que tel.
Mais c'est vrai que tu fais beaucoup de choses.
Ouais.
C'est ce que ça veut dire.
J'ai plusieurs casquettes et on va dire que chacune d'elles me passionne un peu à sa manière. Et c'est ce que j'apprécie dans toutes mes activités. Et ce qui m'anime, je dirais que c'est apprendre de nouvelles choses. Tu vois, vraiment faire de la veille, comprendre les mécanismes, trouver des outils. J'ai beaucoup été intéressée par mon parcours dont on évoquera dans le cours de l'épisode, par le comportement humain, le marketing. En fait voilà, c'est pour ça que j'aime autant partager sur mon compte les briefs créatifs, parce que j'adore creuser les sujets, aller trouver des choses, des belles histoires, etc. Donc tout ça m'anime beaucoup au quotidien et dans toutes mes activités.
Super, je suis très curieuse effectivement que tu nous racontes ton parcours, parce que je crois que t'as fait pas mal de choses en effet. Donc est-ce que tu veux reprendre le cours de tes formations déjà?
Ouais, ça marche. Alors du côté études, j'ai fait un baccalauréat littéraire, donc je remonte vraiment très très loin comme tu vois, pour que t'aies vraiment tout le spectre des études. J'ai fait du coup un baccalauréat littéraire option art plastique à l'époque, et clairement quand j'étais dans ma dernière année de lycée, j'étais un peu perdue, je pense comme beaucoup d'étudiants. J'étais, tu vois, limite dans ma petite barque face à un océan de possibilités, et je me disais mais je vais aller où, je vais faire quoi? Et finalement, je me suis orientée vers la psychologie, Donc j'ai fait une licence, donc j'ai fait les 3 ans de licence pour avoir mon diplôme, clairement. Au début, ça m'intéressait énormément, comme je te disais, surtout sur le côté comportement humain, compréhension, etc. Et au bout de 2 ans, je me suis dit non, c'est pas du tout ça que je veux faire de ma vie. J'étais vraiment pas à ma place. Alors je me suis réorientée complètement de zéro en communication, donc en BTS communication et ensuite en bachelor stratégie digitale. Pourquoi je me suis réorientée ? Parce que ça me plaisait plus du tout et j'avais besoin de reprendre tout ça de zéro pour pas être larguée au niveau des compétences et des attendus par rapport aux autres. Et après mon bachelor, je me suis orientée vers la direction artistique qui me permettait de combiner à la fois la communication et le graphisme donc dans mes études et dans mon parcours professionnel aussi. Et du coup, si tu veux aussi en savoir plus côté pro, donc j'ai fait tout mon cursus en communication, en apprentissage. Donc j'ai fait de l'alternance depuis le départ.
Ok, super.
Ouais, clairement, c'est un super moyen pour apprendre et pour être sur le terrain. Surtout en communication, on se rend pas compte, mais la théorie, ça va 5 minutes, quoi. Non, vraiment.
Ouais, clairement. Ouais.
Et du coup, j'ai pu réaliser mon alternance dans des entreprises hyper variées. Ça a été vraiment une chance. J'ai fait mon parcours donc au tout départ dans la fonction publique d'État, donc un secteur bien particulier. Ensuite, je suis allée plutôt dans le secteur de la food, donc dans le vin et dans les produits pour petit déjeuner. Et maintenant, du coup, dans le thé, donc un secteur qui me plaît beaucoup, que j'aime personnellement, mais aussi professionnellement. Donc, je pense que le côté très formateur de l'alternance m'a aussi aidé à trouver vraiment ma place, tu vois, dans ce secteur. Et c'est une chance incroyable d'avoir été en alternance depuis le tout début de mes études. Donc,
ce qui n'est pas toujours le cas dans les études de com ou de graphisme, par exemple, mais je pense qu'effectivement, ça permet vraiment de mettre un pied dans la réalité, en fait. Il y a un gros gap entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui se passe dans la vraie vie.
Vraiment, oui. Et puis, t'apprends aussi sur certains sujets, bien plus en étant en entreprise qu'à l'école, sur une chaise, à entendre des cours, etc. Donc, hyper formateur.
Ouais, super. Et du coup, parce que toi, quand tu te présentes, tu dis que t'es graphiste et rédactrice, c'est-à-dire que là, actuellement, dans ton poste, t'arrives à vraiment combiner les deux, quoi, l'image et les mots.
Oui, j'ai à la fois la partie, on va dire, plus visuelle et la partie aussi appui sur la création de contenu textuel, notamment pour LinkedIn ou pour certains posts Instagram, par exemple. Donc, c'est hyper formateur aussi. Et c'est vrai que j'ai pas développé le côté entrepreneurial aussi de mon parcours.
Bah voilà, j'allais te demander où est-ce que tu cales dans tout ça, le reste.
Je me suis lancée en fin d'année 2019 en tant que graphiste et rédactrice indépendante.
Ok.
Pendant mes études en fait, j'ai eu besoin, tu vois, d'aider, de proposer mes compétences. Du coup, je me suis lancée dans le grand bain, on va dire, du côté entrepreneuriat et micro-entreprise. Et j'ai créé les briefs créatifs en fin d'année 2020, donc un an après.
D'accord.
Et puis le jeu de cartes est arrivé fin d'année dernière, donc tout s'est un petit peu enchaîné là-dessus aussi.
Ok, mais alors du coup, comment ça s'est passé au moment où toi tu t'es lancée en 2019 ? Est-ce que c'est parce que tu as eu des opportunités et du coup tu y as répondu et tu t'es mis en freelance ? Ou est-ce que toi-même t'es allée démarcher tes premiers clients ? Comment t'as lancé en fait ton activité ?
Alors, on va dire que je me suis beaucoup documentée sur l'entrepreneuriat dans l'année 2019, en fait, pendant mes études. Ouais. Et donc, en cherchant de l'info, en écoutant aussi des parcours, notamment par le biais de podcasts. Donc, c'est pour ça que c'est super important de partager son expérience. Et j'ai eu quelques demandes de création de la part de mes proches. Et au final, je me suis dit, bah pourquoi pas monter cette petite activité à côté. Je me mets pas de pression. Et je me laisse un petit peu porter en me disant bah ce qui arrive arrive et voilà, je me suis jamais mis de pression depuis le départ et voilà, c'est en ayant quelques petites opportunités au départ par le biais de proches que je me suis lancée. Et après, de fil en aiguille, en montrant mon travail, etc., des personnes sont venues à moi et m'ont confié leur projet.
D'accord. Et du coup, les briefs créatifs, ça arrive un an après que tu sois un peu lancée dans cette démarche-là. Et qu'est-ce qui te pousse à créer ce projet-là? Parce que tu as quand même tes études, ton alternance, des projets en freelance.
Alors, on va dire que les briefs créatifs, c'est parti d'un constat que j'ai eu, moi, en tant que graphiste, quand je me suis lancée. C'est que je trouvais pas le moyen de montrer mon travail, vu que j'avais pas de projet client vraiment abouti. Je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais me vendre auprès des clients? Et je me suis dit, je vais commencer à participer à des briefs fictifs. Tu vois, dans le milieu, ça se fait beaucoup, surtout quand on est graphiste. Et au final, je me rends compte assez vite que ce qui existe sur le marché, c'est des générateurs de briefs en ligne, tu sais, en mode un peu robot, ou alors des comptes américains qui ne proposent pas forcément une communauté derrière et pas forcément de valeur ajoutée, mis à part les briefs. Du coup, je décide de créer une communauté autour de ces briefs parce que je me rends compte que ça intéresse beaucoup de graphistes avec qui j'échange au quotidien. Et au fil des mois, je vois que c'est vraiment un truc de dingue. Je me dis, mais ça marche super bien. Les gens sont intéressés, il y a de l'engagement. Donc je commence à publier, tu vois, des conseils, des tutos, des ressources.
Tout ça sur Instagram d'abord, c'est ça?
Oui, tout d'abord sur Instagram. Et après, je me suis dit, au-delà de tout ça, au-delà du fait que je propose des briefs tous les mois avec une date précise de rendu, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour les créatifs qui veulent se challenger quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent? Et du coup, l'idée du jeu de cartes m'est venue à ce moment-là. Je l'ai lancé sur Ulule, donc en crowdfunding. Et c'est pareil, il y a eu un très fort engouement. Les personnes ont été super intéressées et ça a été une expérience incroyable.
Parce que du coup, tu avais déjà une communauté très engagée qui te suivait sur les challenges que tu proposais sur ton compte Insta et qui ont été tout de suite convaincues par le produit en sous forme de jeu de cartes, quoi.
Tout à fait. Oui, ils m'ont soutenue assez rapidement sur la campagne, plus que ce que j'aurais imaginé d'ailleurs. ça a été fou. Et on va dire que oui, ça a été à la fois des graphistes indépendants qui me suivaient sur ma page, ça a été même des enseignants dans des écoles qui voulaient proposer leur jeu, enfin le jeu à leurs étudiants. Donc des profils très variés et super intéressants pour échanger, pour comprendre les besoins, etc. Donc vraiment une belle expérience.
Et l'expérience du crowdfunding, tu l'as faite toute seule? Comment t'as géré? Parce que c'est aussi un gros challenge, non, je crois?
Oui, je l'ai réalisé toute seule. ça a été une belle expérience aussi, mais une expérience intense. J'ai été aussi épaulée par quelques proches, heureusement, parce que c'est vrai que réaliser ça toute seule, sans agence ou sans professionnel à côté, c'est compliqué. J'ai eu aussi la chance d'avoir une personne chez Ulule qui m'a bien accompagnée sur la création de la page pour optimiser certaines choses, donc c'était très très bénéfique pour moi et ça m'a permis vraiment de bien développer ça et de proposer quelque chose de parfait.
Donc ça a marché et grâce à ça aujourd'hui t'as un jeu de cartes que tu vends ou c'est fini, tu l'as juste vendu au moment de la levée de fonds?
Alors, je le vends, on va dire, sous forme de drop, en fait, pour en précommande, toujours, pour pouvoir aussi me permettre de bien mesurer l'intérêt des gens à chaque fois, de produire à la quantité juste, parce que c'est important aussi, au niveau environnemental, etc. Du coup, je sais à chaque fois combien de personnes commandent pour chaque drop. Et on va dire que les drops arrivent tous les 3 mois pour le moment. Là, j'en ai fait un au mois d'avril dernier, qui a également bien marché. Je compte continuer comme ça en termes de drops et de précommandes parce que c'est quelque chose qui plaît aussi et ça permet des deux côtés d'être gagnant.
Ouais, Donc vraiment, en fonction de la demande, tant qu'il y a de la demande, tu pourras le produire et le mettre à la dispo des créatifs, quoi.
Tout à fait, t'as tout compris.
Et la communauté continue à grandir. Enfin, du coup, pour toi aussi, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui par rapport à ton activité, d'avoir tous ces gens avec qui t'échanges? Enfin, comment ça fonctionne aussi? Quelle place ça a dans ta vie, cette communauté?
Eh ben, on va dire que ça me prend pas mal de temps, hein, comme tu le devines. Mais c'est un bonheur, en fait, au quotidien, de voir que le concept grandit, que les personnes sont intéressées et engagées sur Instagram notamment, parce que c'est le moyen, c'est mon moyen de communication, on va dire, privilégié avec LinkedIn. Et on est presque 10 000 maintenant sur le compte Instagram, donc
c'est énorme.
Ouais, c'est fou. et voilà, j'ai toujours des petits mots encourageants, des personnes qui me proposent aussi des idées, qui me disent ça serait super bien d'avoir une édition sur tel sujet, etc. Donc ça me booste aussi à continuer au quotidien. Et voilà, c'est un projet que je monte à côté de tout le reste, mais qui est passionnant. Vraiment, je pense que c'est l'une de mes activités les plus passionnantes au quotidien.
C'est vrai que du coup, il y a cette notion de communauté et de partage qui est très fort, quoi. Et alors, en plus de ça, est-ce que tu arrives du coup à répondre à des demandes clients? Enfin, j'imagine que ça t'a donné aussi pas mal de visibilité.
Oui, aussi. J'ai certaines de mes clientes qui m'ont déjà démarché parce que j'étais la fondatrice des briefs créatifs. Bon, c'est pas tout le temps, ça arrive pas à chaque fois systématiquement, mais on va dire qu'on arrive à du 20% de mes clientes qui me démarchent par ce biais-là. Et c'est vrai que ça donne de la visibilité et de la crédibilité aussi. Donc pour la légitimité, c'est quand même bien, on va dire. Parce qu'au début, on se sent pas forcément légitime de faire les choses, surtout quand on est encore en études. Mais ça aide, tu vois, d'avoir ces petits projets à côté, ça aide beaucoup.
Parce que du coup, là, toi qui es encore en études, est-ce que tu comptes après te lancer à ton compte?
Alors, ça a jamais vraiment été mon goal, on va dire. J'ai d'ailleurs un petit peu freiné mon activité de graphiste indépendante depuis que j'ai les briefs créatifs et le jeu de cartes, parce que forcément, il faut faire des choix. Mais j'accompagne toujours des personnes pour leurs projets. Mais voilà, ça a jamais été vraiment mon but ultime. Là, dans l'entreprise dans laquelle je suis en alternance chez Anatae, je m'y plais beaucoup. J'adore les missions que je fais. Et voilà, donc à l'avenir, on verra si c'est dans cette entreprise que je continuerai. Mais je suis passionnée par l'histoire de Camille et par toutes mes missions. Donc j'espère de tout cœur et on verra ce que l'avenir nous dira.
Mais aussi, surtout, ce que je comprends, c'est que toi, ce que t'aimes, c'est avoir plusieurs activités aussi, c'est d'avoir plusieurs projets, de pas être seulement en poste ou seulement en freelance, quoi.
Tout à fait, tout à fait. J'adore ce côté un petit peu modulable, en fait, de me dire, ok, je suis chez Anatae, mais à côté, j'ai quand même ce jeu de cartes qui m'anime, cette activité de graphiste qui m'anime aussi, et je peux moduler selon mes envies, mon humeur, mon mood, etc. Et c'est super important, je trouve, d'avoir plusieurs casquettes. Enfin, pour moi, dans ma personnalité, j'adore, tu vois, la nouveauté, j'aime pas être dans la routine, etc. Donc, c'est l'idéal, en fait. j'adore avoir ces casquettes.
Et aussi, ce que je trouve chouette, c'est qu'au final, toi, t'avais commencé à faire des briefs créatifs pour te lancer, pour potentiellement trouver des clients aussi, avoir des choses à montrer dans ton portfolio. Mais t'as vraiment étendu ça à tous les autres créatifs qui sont dans la même problématique et qui, potentiellement, grâce à tes briefs créatifs, vont aussi étoffer leur portfolio et vont aussi trouver, eux, d'autres clients. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, de super au niveau de l'impact, en tout cas.
Tout à fait. On va dire que la majeure partie des personnes qui sont sur mon compte et qui me suivent, c'est pour remplir leur portfolio. Parce que soit ils sont en études et ils ont besoin par rapport à, tu vois, des recrutements en stage ou en alternance. Ou alors pour trouver un CDI, pour vraiment se faire une place et se donner un petit peu de la force et de la crédibilité aussi à travers les projets qu'ils ont pu faire, etc. Donc c'est un petit peu le concept et l'objectif derrière.
Ouais, c'est chouette. Bah, c'est vrai que c'est une des questions que moi, on me pose souvent, enfin, qui revient souvent, c'est comment on trouve des clients. Et je pense qu'une des possibilités, c'est de faire des projets fictifs. Et on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui veulent pas l'assumer, ou je sais que c'est aussi une des questions que les graphistes peuvent se poser. Est-ce que c'est OK de mettre des projets fictifs sur son portfolio? Mais en fait, je trouve que là, tu prouves que, à fond, enfin, c'est tout à fait OK et c'est pertinent.
Et j'en ai même, à titre personnel, ajouté dans mon portfolio. Enfin, tu vois, au début, quand tu débutes et que t'as bah, concrètement rien à montrer en termes de projet, c'est de l'or, quoi. Tu vois, entre un portfolio qui n'a rien et un portfolio qui est rempli de projets fictifs, où on voit que la personne se donne et continue de créer, etc. Entre les deux, voilà, tu sais quoi choisir et...
Ouais, ou aussi, tu vois, je pense par exemple aux indépendantes. Parfois, c'est vrai qu'on n'est pas toujours satisfaite des projets qu'on a faits avec nos clients, nos clientes. Ça arrive quand même que le résultat final soit pas non plus à la hauteur de ce que nous, on voulait. Et du coup, ça permet aussi de se faire un peu plus plaisir sur d'autres projets ou de peut-être un peu, si on veut changer son positionnement, bah grâce à ton jeu, on peut aller chercher des briefs qui vont aussi orienter un peu, tu vois, le type de projet qu'on veut montrer. Ça peut être très généraliste, comme tu disais, les briefs que tu trouvais en ligne, là, qui étaient générés, tu vois, de manière un peu comme ça, automatique. Là, je pense qu'avec le jeu, il y a aussi ces moyens d'aller chercher, peut-être, des briefs qui nous intéressent et puis de se constituer un portfolio, tu vois, qui est encore plus à l'image de ce que nous, on veut montrer. Ça va encore au-delà, tu vois, de ce qui est juste proposé comme ça, un brief.
Oui, voilà, c'est modulable. Hein. C'est modulable avec le jeu. C'est vrai que ça change des briefs qui sont publiés sur Instagram, sur mon compte, par exemple. Ce sont des briefs qui sont très détaillés et précis et qui, du coup, ne laissent pas forcément place à quelque chose que tu voudrais ajouter personnellement dedans. Et là, avec le jeu de cartes, bah, tu peux piocher à l'infini et te dire « Ah bah non, celui-là, j'ai pas envie de le faire et y revenir plus tard, quoi. »
Ouais, ça peut être vraiment un super boost de créativité et puis du coup de un boost de portfolio, ça peut redonner de la visibilité. Enfin, c'est vraiment un super projet. Est-ce que maintenant que tu nous as un peu raconté tout ce que tu fais, d'où tu viens et puis ce gros projet, est-ce que tu veux nous raconter ton plus gros échec de toutes tes expériences?
Oui, avec plaisir, parce que c'est important aussi de souligner ces petites expériences, qu'elles constituent le reste. Donc c'est avec plaisir. Je pense que mon plus grand échec, on va dire que je l'ai vécu comme un échec, mais aujourd'hui, je le vois plus trop comme ça. Ça a été, je pense, de me réorienter de zéro. Tu vois, cette période où je me suis dit, la psycho, ça me plaît plus du tout. Et je me réoriente complètement vers la com. Je pense que cette période a été l'un des échecs les plus, on va dire, les plus forts que j'ai pu avoir. Dans le sens où je voyais, tu vois, mes amis qui continuaient leur voie, qui avaient trouvé vraiment leur place. Et je me voyais, moi, en train de tout reprendre, en me disant, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette fois-ci, je vais trouver ma place, etc. Et on peut, voilà, douter, quand c'est comme ça, du choix qu'on est en train de faire, parce que c'est une remise à zéro, donc on revient en arrière, tu vois, 3 ans en arrière. Mais au final, tu vois, je pouvais pas rester dans un endroit où je me sentais pas à ma place à 100%. Et je me suis dit, au final, c'est que du plus, on y va et on verra, quoi.
Est-ce que tu peux dire en plus qu'aujourd'hui, tout ce que t'as appris pendant cette licence, ça t'a forcément apporté quelque chose? Enfin, moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ça fait aussi partie quand même de ton identité et ta manière d'appréhender les choses que d'autres graphistes n'auraient pas.
On va dire que oui, ça m'a vraiment permis d'avoir un positionnement un peu différent et de me mettre vraiment à la place des personnes que j'accompagne. Tu vois, vraiment me permettre de creuser le sujet, de creuser leurs envies, leurs besoins, etc. De vraiment comprendre ce qui se cache derrière leur envie de créer quelque chose. Et en fait, au final... cet échec, on va dire, m'a plus apporté que, au final, m'a permis de rétrograder en termes de d'années et de compétences, etc. Ça m'a vraiment ouvert des portes et je pense que ça m'a permis aussi de me lancer sur des sujets sur lesquels je ne me serais pas lancée si j'avais pas fait ça, quoi. Par exemple, le fait de me mettre en tant que graphiste freelance, etc. Si j'étais restée en psycho, en me disant le graphisme, parce que j'ai toujours fait du graphisme, en fait, même en étant en psycho.
Ok, ouais, t'as jamais arrêté complètement d'avoir une activité créative, quoi.
C'est ça, tout à fait. Et du coup, si je laissais vraiment cette activité de côté, je me serais jamais dit, mets-toi en freelance, fais des projets et accompagne des gens. Je pense que avec cette formation, je me serais jamais dit ça, et je pense que voilà, cette expérience m'a permis d'ouvrir certains champs et certaines opportunités aussi.
Merci de partager ça avec nous. Je pense que tu as raison. C'est vrai aussi que quand on est en études en France, il y a beaucoup cette idée qu'on ne doit pas dévier ou qu'il ne faut pas changer radicalement de trajectoire. Donc, encore une fois, ça prouve que c'est possible, quoi.
Tout à fait. Oui, tout est possible.
Oui, moi, je trouve que c'est toujours hyper intéressant, justement, que d'avoir quelqu'un qui vient d'un background très différent. Enfin, ça nourrit forcément ta pratique, en fait, du graphisme ou de la rédaction, enfin, de la com en général. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir des profils comme ça. Mais c'est vrai que quand on est jeune et quand on est en train de faire ses études, on n'a pas l'impression qu'on est soutenu dans nos changements comme ça d'orientation.
Mais je pense que ça fait peur, tu vois, aux personnes... Par exemple, autour de moi, qui ont pu me voir aller en psycho et au final qui ont vu que je me réorientais en disant mais est-ce qu'elle va vraiment trouver sa voie, presque en ayant peur pour moi, en se disant est-ce que ça va réussir cette fois-ci, est-ce qu'elle va être vraiment à 100% elle-même dans la formation. Et je pense que c'est aussi nourri par des peurs, etc., des doutes. Et au final, je pense que ces personnes qui ont réussi à rebondir sur une formation qui n'était pas forcément initialement ce qu'ils avaient prévu, comme tu dis, ça nourrit forcément leur activité et leur pratique, et ça fait vraiment une valeur ajoutée, quelque chose que les autres n'ont pas, et ça aide aussi à se positionner.
Ouais. Est-ce que tu veux nous parler du coup, à l'inverse, de ta plus belle réussite, ta plus grande fierté ?
Oui, avec plaisir aussi. Je pense que ça rejoint un petit peu le côté échec, justement, donc c'est parfait de la poser maintenant. On va dire que ma plus grande fierté aujourd'hui, ça serait, tu vois, d'avoir pu semer des petites graines un petit peu autour de moi pendant mes études, avec ces différents projets et ces différentes activités, qui sont devenus quand même des beaux projets, notamment par le jeu de cartes, etc., et le concept. Et tout ça avant même d'avoir eu 25 ans. Je me dis ça a été vraiment le moment clé pour moi pour réaliser ça, parce que je l'aurais pas réalisé après 35 ans ou après 40 ans. Et je pense que toutes ces petites graines qui ont été plantées et tous ces projets qui ont été semés, ça me permet aussi de grandir professionnellement, de me permettre d'avoir une place. Et je pense que si je devais recommencer quelque chose, je changerais absolument rien à ce parcours, parce que ça m'a permis vraiment de... si on veut rester dans la thématique des fleurs, du fait de semer, ça m'a permis de grandir et de m'épanouir en tant que personne et en tant que professionnelle aussi. Donc c'est du plus, et je pense que c'est ma petite fierté.
Du coup, c'est vrai que finalement, tu n'as que 25 ans, entre guillemets. Il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Donc, je trouve que dans ton cas, la question « qu'est-ce qui va se passer après ?» est très intéressante. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire après ? Qu'est-ce que tu vois pour les briefs créatifs ? Enfin, voilà, quels sont un peu les projets que tu penses que tu vas mener ou laisser de côté plus tard ?
Je pense que les briefs créatifs vont perdurer dans le temps. Enfin, je le vois comme ça. parce que j'ai déjà des autres idées d'éditions, de prochaines éditions de thématiques différentes. Là, je travaille sur la seconde déjà. Et j'ai l'impression que les personnes sont très intéressées, notamment des créatifs qui sont pas forcément graphistes. Je pense à certains créatifs, notamment des photographes ou des CM, qui ont des besoins à l'heure actuelle et qui cherchent des outils qui leur permettent de aussi développer leur créativité, parce que en termes de créativité, on parle beaucoup de graphisme, etc., mais il y a également beaucoup d'autres secteurs. Et je pense qu'avec d'autres éditions sur des thématiques bien particulières, sans trop forcément teaser ce qui va arriver non plus, Je pense que ça va aussi leur permettre d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, bah, moi aussi, je peux développer ma créativité à partir de cet outil. Et voilà, j'aimerais bien développer plusieurs autres éditions, pardon. Et côté pro, je pense que pour le moment, je vais me laisser porter, comme je l'ai fait pour mon activité de graphiste indépendante. Et je pense que ça va possiblement m'ouvrir des opportunités et d'autres horizons, on va dire.
Là, tu vas terminer quand ta formation ?
Alors, je termine en septembre. J'ai un peu hâte de terminer parce que j'ai hâte aussi de voir ce que l'avenir va me réserver de ce côté-là. Vu que je me suis réorientée, on va dire que j'ai passé pas mal des années de ma vie en études et j'ai envie de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté et de faire mes preuves aussi de ce côté-là.
Et en même temps, ça fait longtemps quand même que tu travailles. Finalement, c'est un peu paradoxal parce que oui, c'est vrai que t'as fait pas mal d'études et que t'y es encore, mais t'as commencé des choses que t'aurais pu faire sans tes études finalement. Enfin, tu vois, les briefs créatifs ou le fait d'être en freelance, par exemple, t'es déjà dedans depuis un moment.
C'est vrai. Après, tu vois, j'aime toujours avoir quand même ce côté diplôme derrière parce que pour moi, c'est quand même une légitimité. Ça aide aussi à se faire une place. Même si, bah, à côté, c'est vrai que les expériences pro permettent de bien évoluer et rapidement. Mais je trouve que derrière, d'avoir vraiment les formations, ça aide aussi à être légitime aux yeux des recruteurs et aussi aux yeux des clients.
T'as l'impression que les clients que t'as eus en freelance, notamment, pour eux, c'était important, les diplômes que t'avais ?
Alors, il y a certains qui me les ont demandés, en effet.
Ah ouais, ok. J'ai jamais entendu ça.
si, ça arrive, ça arrive. Bon, ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et il y a même des clients pour lesquels ça a posé problème que je sois encore en études, tu vois.
D'accord.
Oui. C'est vrai que je l'avais pas forcément imaginé. mais c'est toujours intéressant, tu vois, d'échanger et de se dire, ben, moi, j'ai mon positionnement de graphiste à côté de mes études et voir ce que les personnes en pensent en face et comment ils le perçoivent. C'est aussi super intéressant et ça aide aussi à créer des supports, tu vois, à rassurer les gens, notamment par le portfolio, par des échanges téléphoniques, pour aussi les rassurer là-dessus et de se dire, bah, c'est pas parce que je suis graphiste indépendante à côté de mes études que je suis moins légitime que les autres et que j'ai moins à apporter que les autres aussi.
Ah, tu vois, c'est fou. Moi, j'ai l'impression que quand on passe du côté des freelances, en fait, les diplômes importent peu, quoi. Mais peut-être qu'effectivement, bah, j'avais tort.
Bah, je pense que en effet, il n'y a jamais de. Tu vois, les clients sont tous différents et à chaque fois, les demandes sont différentes. Donc, en effet, ça peut jamais être linéaire.
Si tu avais un conseil à donner aux entrepreneuses créatives qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait ?
Alors, je pense que si je dirais de développer leur créativité, ça serait peut-être un petit peu bateau. je pense qu'au-delà de développer sa créativité, qui est déjà super important dans nos métiers. Je pense que c'est de trouver, tu vois, sa valeur ajoutée, de savoir pourquoi on fait les choses, de se connaître, tu vois, vraiment de donner du sens à ce qu'on fait, parce que au final, c'est ce qui nous différencie dans ce secteur qui est complètement en train d'être bouché, parce que chez les graphistes ou chez les créatifs, si tu te démarques pas à un moment donné, c'est compliqué, on va dire. Et je pense que voilà, le fait de donner du sens et de savoir pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu accompagnes ce type de client, pourquoi tu es spécialisé dans ce type de support, au final, ça te permet d'y voir plus clair et de te positionner, de construire tes offres, etc. Et je pense que c'est le conseil que je donnerais, même avant de développer sa créativité pour le coup.
Et pour développer sa créativité, est-ce que tu voudrais leur donner aussi des conseils ?
Bah, avec plaisir. Alors, pour développer la créativité, je dirais que je pense qu'il faut pas s'enfermer dans des secteurs d'activité précis ou sur des supports précis. Parce que c'est vrai que si, ben, dans ta pratique, tu as l'habitude de créer, je dis n'importe quoi, des plaquettes commerciales, forcément, à force de faire des plaquettes commerciales, je pense que t'es pas forcément challengé sur d'autres choses. Par exemple, si un jour on te demande de réaliser un packaging pour un produit, forcément, t'auras des codes qui sont précis sur des plaquettes commerciales, mais que t'auras pas forcément sur des packagings, par exemple, c'est très concret ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que ça permet de bien voir la chose et de se dire, bah, il faut pas s'enfermer dans des cases, je pense, et de se dire, bah, on se challenge par le biais de, tu vois, de faire des veilles très régulières, en allant se challenger sur d'autres secteurs, en regardant ce que font les autres aussi, parce que c'est vrai qu'on a un métier très très visuel. Donc forcément, on va s'inspirer sans copier, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Et voilà, je pense que de faire tout ça et aussi de se dire, bah ma créativité, elle est pas linéaire, elle va faire comme ça. Enfin, il y a des hauts, il y a des bas, et de se dire que ça peut pas être parfait tout le temps. Aussi, ça permet de se rassurer et de se dire, bah ma créativité, si elle est au plus bas, bah je peux la laisser au plus bas pendant un moment parce que c'est ce que je veux. Ou alors, bah, je peux la développer avec plein de manières différentes, dont le jeu de cartes, ou alors le compte Instagram des Brief Créatifs. Et voilà, je pense que c'est aussi propre à chacun de se dire comment je la développe, est-ce que j'ai envie de la développer, à quel moment, à quelle fréquence.
Ouais, c'est super, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on a plutôt, en tout cas, bon, je parle vraiment plutôt pour dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on se dit, bah, il faut que je me positionne, il faut que je me spécialise, et on a un peu tendance à s'enfermer, je pense, tout seul dans un type de support ou de client ou de projet, et je pense que c'est ok, mais c'est un bon rappel de se dire que de temps en temps, on peut vraiment sortir complètement du cadre et se forcer, entre guillemets, à créer des choses très différentes, même si ça sert à rien. Enfin, peut-être que ce sera pas quelque chose qu'on pourra mettre dans son book, mais juste faire cet exercice-là de faire un pas de côté, en termes de boost de créativité, c'est pas mal, effectivement.
Carrément. Et puis, tu vois, je parlais justement de ce sujet avec Audrey, Audrey graphiste culinaire, que j'admire beaucoup, d'ailleurs, elle le sait. Et en fait, on parlait justement du côté spécialisation, le fait de, voilà, de se positionner sur un type de client ou un type de secteur en particulier. Et c'est vrai que Audrey, elle est spécialisée en culinaire, en métier de bouche, etc. Et tu vois, le fait de, d'échanger avec elle là-dessus, m'a permis de voir que, bah, tu vois, il y a vraiment des personnes qui sont passionnées par ça. Vraiment. Et qui, pour se développer, je sais pas ce que Audrey fait à côté, si elle se challenge sur d'autres sujets, etc. Mais je sais qu'elle prend majoritairement des projets sur le graphisme culinaire, sur des supports très différents. Et je pense que sa pratique sur des supports variés lui permet aussi de vraiment développer sa créativité sur cette activité professionnelle qu'elle a. Et je pense que ça dépend aussi des personnalités, comme on le disait, tu vois. Peut-être que Audrey n'a pas, enfin, je vais pas parler en son nom, mais elle a peut-être pas besoin de se challenger, enfin, challenger sa créativité parce qu'elle le fait déjà dans son activité au quotidien. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'il faut bien savoir ce qu'on veut, bien savoir pourquoi on le fait et bien savoir aussi à quelle fréquence on veut développer sa créativité et comment.
Bah, merci beaucoup, Morgane, pour tous tes partages. Du coup, si on veut suivre tes aventures, c'est plutôt sur Instagram, sur le compte des Briefs Créatifs.
Tout à fait, le compte Insta, et puis il y a également la page LinkedIn, si vous êtes plus adepte de LinkedIn, parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatifs là-bas.
Ok, ah bah, c'est intéressant, on va peut-être en parler juste un petit peu. C'est vrai que LinkedIn n'est pas beaucoup mentionné dans ces interviews.
je comprends un petit peu.
Mais pourtant, du coup, toi, tu as quand même développé une communauté aussi sur cette plateforme.
Oui, on va dire que le concept s'est vraiment développé sur Instagram de base. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, tu sais, il y a énormément de créatifs qui, justement, montrent leur travail. Justement pour trouver un CDI, une alternance, un stage, ça se fait beaucoup hein, en études supérieures. Et aussi là-bas, ça me permet d'avoir des échanges avec eux, de connaître un peu leurs besoins aussi, et puis de faire connaître le concept aussi sur LinkedIn. Donc ça me permet d'avoir des points d'accroche aussi différents sur ces sujets-là, et c'est que du plus.
Ok, donc je vais essayer de mettre en description de l'épisode tous les liens pour te retrouver. Et puis, bah, bonne continuation. Alors, on va suivre tes aventures pour voir ce qui va se passer pour toi après. Merci Morgane.
Merci beaucoup Dorothée pour l'accueil et puis pour la richesse de nos échanges. C'était chouette, vraiment, merci.
Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, Vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, @dorothecadio, pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.